matin. Voilà, comme cela a été annoncé, nous sommes dans la période de Pâques. Désolé, ce matin, je n'ai pas des œufs de Pâques à vous distribuer. La responsabilité reviendra à celui qui va porter la parole la semaine prochaine. Je ne serai pas là, donc. Ça tombe bien. Donc, la semaine prochaine, n'hésitez pas à demander les œufs de Pâques à celui qui va prêcher. Je ne sais pas qui c'est, mais vous allez découvrir. Voilà, on est dans le thème. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ce matin, en rentrant, de faire une petite lecture, mais très brève, rapide, juste sur le mur d'en face. Vous savez maintenant qu'on essaie au mieux possible d'annoncer les thèmes, voilà, que nous abordons. Voilà, on essaie d'afficher. C'est un travail vraiment de titan qui est réalisé à chaque fois. Je remercie vraiment Dina et toute son équipe. Je vois que j'ai déjà quelque chose de prêt. Donc, ce matin, si je n'arrive pas à arriver à la fin de ma prédication, au moins j'ai déjà un endroit où me réfugier. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je pourrais aller me cacher tranquillement dedans, en espérant que je ressuscite quand même. Que le Seigneur, surtout, me ressuscite. Donc, le thème, voilà, en tout cas, c'est le thème que nous avons choisi cette année. C'est « Il est vivant ». Et là, on se dit, mais « Il, c'est qui ? » ?»« Qui c'est qui est vivant ?» C'est le thème, en tout cas, qu'on pense aborder ces deux dimanches, et peut-être plus. Nous n'en savons rien encore. « Il est vivant », c'est un thème important. Vous savez, « Il », vous avez tous compris, il est question de... Ah oui, vraiment, vous n'êtes pas hyper convaincus, là. Hein, c'est un petit Jésus, là. Hein ? C'est un grand Jésus ? Super. Et bien donc, il est question de ce Jésus qui est vivant. Et vous savez, la vie de Jésus, du début à la fin, est un mystère. Vous avez remarqué, Jésus n'est pas venu au monde comme tous les autres êtres humains. C'est une période qui est passée, qui arrive, vous voyez, les périodes, elles passent, elles reviennent. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est comme la montre, hein. Et là, nous savons que Jésus, pour que Marie soit enceinte, il a fallu que l'ange vienne lui annoncer qu'elle serait enceinte, elle qui n'avait jamais connu d'homme, elle qui n'avait jamais été avec Joseph, juste fiancée. Et là, la jeune Marie, elle est perturbée, elle ne comprend rien, elle se dit, mais oui, merci monsieur l'ange Gabriel de venir m'annoncer une si belle nouvelle, mais par ailleurs effrayante, bien sûr. Comment moi je fais là, du peu que je connais sur la terre? Lorsqu'un enfant doit venir au monde, eh bien, il faut bien qu'il y ait une association entre un homme et une femme. Et là, tu me dis, moi, je vais tomber enceinte comme ça. Et dis-moi un tout petit peu, tu ne peux pas m'en dire un tout petit peu plus. Et là, l'ange de lui dire, mais il faut que tu saches une chose, c'est que ben, le Saint-Esprit viendra sur toi et il va te couvrir de la puissance du Très-Haut. C'est pour cette raison que le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Saint-Enfant, l'enfant mis à part qui naîtra de toi, sera appelé le Fils de Dieu. Bon, Marie accepte. Hein. On aurait fait pareil. Hein. Moi, je ne sais pas. Moi, l'ange ne serait jamais venu vers moi, ce qui est merveilleux. Jamais. Ça déjà, voilà. Vous voyez, tous les gars, vous pouvez ne même pas réfléchir, n'imaginer rien. Alors les femmes, là, vous pouvez y aller ce matin, imaginez toutes les choses que l'ange aurait pu vous dire. Et là, Jésus va naître de manière mystérieuse. Marie va tomber enceinte. Elle va donner naissance à ce jeune Jésus. Et Jésus va grandir comme tous les autres enfants de son âge. Et là, un jour, à l'âge de 12 ans, il arrive au temple. Eh bien, il épate les grands penseurs, les grands philosophes, les grands théologiens, les grands docteurs de la loi. Ceux qui ont étudié la Bible, ou du moins ce qui en était à l'époque, qui l'ont étudié pendant des années et des années. Et là, ce jeune homme les frappe de sa sagesse, de la puissance des paroles qu'il va leur annoncer. Et là, ils n'y comprennent rien. Et puis là, il y a Marie et Joseph en retournant, bien évidemment, à Nazareth. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas Jésus avec eux. Ils se disent, mais il est où le petit Jésus? C'est vrai qu'il a 12 ans maintenant. Vous savez, à cette époque, 12 ans, c'était la période de passer de la vie d'enfant à adulte. Il n'y avait pas d'adolescence. Est-ce qu'il y a des adolescents ce matin dans la pièce? Hey, non, mais Annie, arrête. Hein. Arrête, Annie. Tu ne me fais pas ça, Annie, s'il te plaît. Arrête. Je sais que je suis plus vieux que toi, mais tu n'es plus adolescente, là, c'est bon. Hein? Et donc, eh bien oui, Jésus, Marie et Joseph retournent à Jérusalem. Et ils disent à Jésus, mais tu nous as fait peur, fiston. Et là, Jésus va leur donner une réponse, mais laconique, bizarre. Il dit, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Oh là là, mon pauvre Joseph. Boum. Heureusement que Joseph et Marie avaient eu la visite de l'ange. Ils savaient que ce n'était pas un enfant qui leur appartenait vraiment. Joseph, encore moins, il savait qu'il n'avait rien fait pour que Jésus vienne au monde. Et là, la Bible nous dit que de 12 ans à l'âge de 30 ans, c'est le silence complet. Il n'y a rien. Il travaille, il scie au bois, il prépare les belles tables pour les femmes de Nazareth et les environs. Et là, il n'y a plus rien. Et puis on nous dit qu'à l'âge de 30 ans, ce jeune homme, mais il se lève de Nazareth, il vient au Jourdain où se trouvait un homme appelé Jean-Baptiste, un de ses cousins. Vous savez combien, quel âge avait Jean-Baptiste? Combien il avait plus? Combien? 6 mois. Et là, il trouve Jean-Baptiste qui baptise. Mais son nom s'y prête, bien évidemment. Il est en train de baptiser. Et puis Jésus se fait baptiser. Jean-Baptiste dit, mais non, c'est à moi de me faire baptiser par toi. Jésus lui dit, il faut que tu apprennes une chose, mon gars. C'est que même Dieu tient compte des Écritures. C'est étonnant. Il dit, il faut que je me fasse baptiser parce que c'est juste. Il n'a pas dit c'est bon, il a dit c'est juste. Parce que ça va participer à l'accomplissement de la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est bon, non. C'est parce que ça va participer à l'accomplissement de la justice de Dieu. Et là, Jésus va se faire baptiser. Nous savons comment les choses vont se passer ensuite. Eh bien oui, ce Jésus, eh bien voilà, il va recevoir le Saint-Esprit, il va commencer son œuvre. Et ce matin, avant de revenir à ce Jésus, j'aimerais qu'on puisse retourner au commencement, parce que quand on parle de la Pâque, eh bien la Pâque en réalité n'est pas au départ une fête chrétienne, comme la plupart des fêtes bibliques en fait. La Pâque n'a pas commencé avec le christianisme. Ah, désolé de vous décevoir ce matin. La Pâque a commencé avec un peuple qui vivait non pas dans des meilleures circonstances. Et j'aimerais que ce matin, on puisse retourner ensemble pour parler de ce mystère du Christ ressuscité. C'est un mystère. Je viens de vous dire que la vie de Jésus est un mystère. On va arriver à la croix, on va arriver à la résurrection, on va arriver à l'ascension. C'est un mystère. Personne, ni vous ni moi, ne pouvons donner une explication rationnelle de ce que... Non, c'est un mystère. On peut juste dire comment les choses se sont passées. Et pour pouvoir justement retourner un peu dans l'institution de la Pâque et l'importance justement de ce qui a été institué, je vous invite à faire une lecture dans le livre d'Exode. Vous connaissez bien ce passage d'Exode 12, hein, on ne va pas faire de longue lecture. La Bible nous dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Pessa, Pâques, je passerai par-dessus. Vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce sont des paroles que Dieu donne à Moïse et à Aaron, alors que Dieu, quelque temps auparavant, va se manifester, va se révéler à Moïse dans le désert par un buisson qui ne se consume pas. La Bible nous dit que Dieu va venir trouver un homme mollasson, un homme découragé, un homme dépité, un homme qui ne voit plus un avenir meilleur, un homme qui s'est résolu à être le berger de son beau-père, lui qui avait un avenir promettant du côté de l'Égypte, mais parce qu'il avait tué un Égyptien pour défendre un des Hébreux, alors que la fois d'après, il va trouver des Hébreux qui se disputent, et là, il y en a un qui va lui dire, « Mais Moïse, est-ce que tu me réserves le même sort que celui que tu as réservé à l'Égyptien ?» Là, il y a quelque temps, et là il va prendre peur, il va fuir dans le désert. Dieu va se révéler à lui 40 ans plus tard. Et à ce Moïse, il va le demander de retourner ni plus ni moins que dans cet Égypte qu'il avait fui, parce qu'il avait peur pour sa vie. Et là, la Bible nous dit que Dieu, pour envoyer Moïse en Égypte, il va lui dire trois choses. Il va lui dire, ben voici, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, et je suis descendu pour l'en délivrer. Oh oui, mais ça c'est super quand Dieu nous dit des choses comme ça. Mais souvent, nous ne savons pas comment il va s'y prendre. C'est ça qui nous ennuie un tout petit peu. On se dit, ben oui, mais Seigneur, donne-moi le mot d'emploi. Vous savez, comme pour notre frigo quand on vient de l'acheter. On dit, ben laisse d'abord le frigo se reposer un tout petit peu pour que le gaz ne puisse pas. Ensuite, au bout, je ne sais pas, de 24, 48 heures selon les marques, et tu peux rallumer et là c'est bon. Tu peux mettre tes aliments, ça va marcher impeccablement. Et là on aime, mais non, mais Dieu dit à Moïse, vas-y. Et Moïse va demander à Dieu, oui, mais moi je vais y aller, quel gage j'ai? Dieu va lui dire, je suis le Dieu qui suis, je suis celui qui suis, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je t'envoie Moïse. Moïse va lui dire, mais non, mais moi j'ai perdu courage, j'ai plus confiance en moi. Alors Dieu, donne-moi d'avoir confiance à nouveau. Et là Dieu va tout mettre en œuvre pour mettre Moïse de nouveau en confiance et de lui dire, mais écoute, la plus grande confiance, c'est que je serai moi-même avec toi en Égypte. Tu n'y vas pas tout seul, n'aie pas peur mon enfant, je suis avec toi. Même si tu as peur de parler, voici, je fais ton frère aîné Aaron, ton prophète, et tu seras pour lui Dieu. Moïse va arriver en Égypte. Et nous savons, il va y avoir une lutte entre, bien sûr, Moïse qui est envoyé par Dieu et Pharaon qui veut garder le peuple esclave. Et là, nous avons une préfiguration, bien évidemment, de ce monde qui est sans Dieu, qui est maintenu, qui est esclave. Le peuple hébreu est là, la préfiguration de l'humanité, pour dire que l'humanité est tenue en esclavage par l'ennemi. Et Moïse va arriver en Égypte, et Dieu va déployer toute sa puissance pour libérer le peuple. Et là nous arrivons, vous connaissez les 9 autres plaies, et là nous arrivons à la 10e plaie. Et Dieu va dire, la 10e plaie, c'est la plaie qui va faire en sorte que vous soyez sauvés, que vous soyez libérés d'Égypte, définitivement. Et là, Dieu va demander au peuple hébreu tout un cérémonial. Il va dire, bah, écoutez, vous allez, pour chaque famille, tuer un agneau. Et si il y a une famille qui est plus nombreuse, qui n'en a pas assez, elle se mettra avec une autre qui est juste à côté, pour qu'il y en ait assez. Vous allez manger, vous allez le rôtir, cet agneau. Ensuite, vous allez le manger et le sang de l'agneau, vous allez le mettre sur les portes et linteaux. Pourquoi? Pour que lorsque je viendrai, quand je regarderai le sang, il n'y aura pas de plaie. C'est étonnant cela. Moi, ça suscite toujours une vive interrogation en moi. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu demandes au peuple hébreu d'appliquer le sang sur les linteaux? N'est-ce pas ton peuple? Pourquoi tu ne viens pas directement en l'épargnant? Parce que le peuple hébreu n'est pas meilleur que le peuple égyptien. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dehors. Vous et moi, nous ne sommes pas meilleurs que les voleurs qui sont dans la ville. Vous et moi, nous ne sommes pas meilleurs que les prostituées, que les mendiants, tous qui sont dehors. Le peuple hébreu n'est pas meilleur. Pour que le peuple hébreu soit sauvé d'Égypte, il a fallu qu'il y ait une alliance, l'alliance de sang. Il a fallu une alliance. Dieu dit, c'est seulement... Si au milieu du peuple hébreu, s'il y avait eu des familles qui avaient négligé d'appliquer le sang sur les linteaux de leurs portes, que leur serait arrivé? La mort. La mort. Dieu nous montre là une préfiguration du salut qui va arriver des millénaires plus tard. Il dit, prenez un agneau, sans défaut. Ça vous rappelle des choses, ça? Un agneau sans défaut. Et Dieu va dire, lorsque je verrai le sang, oui, même si tu n'es pas d'accord, tu vas accepter. Quand je verrai le sang, Dieu n'a pas dit, quand je verrai les Hébreux en train de prier, quand je verrai les Hébreux entre eux, en train de je ne sais pas, peut-être d'adorer. Non, il dit, quand je verrai le sang, je veux voir la marque de sang. Et vous savez, aujourd'hui, on ne parle plus du sang. Oh, ben parce que dans notre siècle, où tout doit être joli, oh ben le sang ça fait, c'est pas top ça. Mais sans le sang, il n'y a pas la vie. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. C'est ça la Pâque. alors que Dieu est en train de leur dire, alors que vous méritez la mort, comme tous les Égyptiens qui sont en Égypte, mais à cause du sang que vous allez appliquer, quand je verrai ce sang, la mort ne viendra pas vous frapper. Mais plutôt, vous passerez de l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à la liberté. Donc Dieu est en train d'instituer et il va dire, vous savez, vous retrouvez les mêmes éléments avec la Pâque lorsque nous le verrons plus loin. Vous retrouvez les mêmes éléments. Dieu va dire au peuple hébreu, il va leur dire, il faut que ça soit quelque chose que vous célébrez de manière perpétuelle, que vous devez transmettre de génération en génération. Vous vous rappelez, il y en a un qui a dit un jour, vous ferez ceci en mémoire de... Un peuple esclave. Dieu dit, c'est le sang qui va être la marque. Et j'aimerais qu'on puisse regarder maintenant. On va considérer deux étapes importantes. Avant la crucifixion et la résurrection de Jésus, pendant la résurrection, et que nous apporte à nous la résurrection de Jésus. Et pour parler de cela, je n'ai pas mis de texte parce que ça va... J'avais pas envie d'avoir de longues lectures, mais j'ai considéré, vous savez, les évangiles, les quatre en parlent, hein, bien évidemment avant la mort de Jésus, la mort, la résurrection, et j'ai voulu considérer le chapitre 26 de l'évangile de Matthieu qui est assez complet, je trouve, et ce chapitre 26 intervient alors qu'au chapitre 24, Jésus va bien sûr parler en fait de manière imagée de sa résurrection lorsqu'il va parler de détruire voilà, le temple et au bout de trois jours les gens ne comprennent pas et les gens lui demandent mais à quel moment Jésus est-ce que tu vas rétablir toutes choses quand tu vas revenir dans ton règne et puis Jésus de leur dire mais non, il faut juste que vous sachiez que ni un homme, ni les anges, ni même le Fils ne connaissent. Seul le Père lui-même sait à quel moment interviendra bien sûr le moment du retour de son fils, pour rétablir toute chose. Mais il va mettre en garde les disciples, en leur disant, faites attention à l'esprit de séduction, parce qu'il y a des gens qui vont venir dans le monde, qui vont se faire passer pour moi. Ils vont même faire des choses prodigieuses. Ça, c'est extraordinaire, ça nous embête, ça. Parce que dans notre imaginaire, on se dit, les miracles, c'est que pour Dieu. Non, Satan fait les miracles. Ça nous embête. Jésus nous dit, les faux messies, les faux Jésus, les faux prophètes vont venir et ils vont faire des choses extraordinaires. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pour cette raison, peut-être certains parmi vous ont déjà vécu, peut-être dans leur vie passée avant de connaître le Seigneur, peut-être même pour quelqu'un ce matin, peut-être tu l'as fait hier, tu l'as fait il y a quelque temps, tu allais voir, je ne sais pas, ce qu'on appelle les 10 heures de bonne aventure. Un médium, mais un médium est capable de te dire la vérité sur un événement de ta vie. Mais ce qui compte, c'est quelle est la source, quel est l'esprit qui est derrière ce médium pour te dire la vérité. Jésus, dans le chapitre 24, il va mettre en garde de l'évangile de Matthieu. Il dit attention à la séduction. Et dans le chapitre 25, il va nous parler du royaume sous forme de parabole, en prenant la première parabole des 10 vierges que vous connaissez très bien. Ensuite, il va nous parler justement de la parabole du maître et des serviteurs avec les talents. Et à la fin de ce chapitre 25, il va nous parler du jugement des nations. Il va nous dire, attention, vous allez voir des guerres, vous allez voir des nations qui vont se dresser les unes contre les autres, mais ce ne sera pas encore le moment. Et là, au chapitre 26, il commence tout de suite en annonçant sa mort. Il dit, il faut que le Fils de l'homme aille mourir sur le bois de la croix pour l'humanité. Alléluia. Amen. Il annonce sa mort. Jésus va annoncer sa mort. Et là, il va se retrouver, il est à Béthanie avec ses disciples, dans la maison d'un homme appelé Simon. Et là, il y a une femme de Béthanie qui vient voir Jésus et qui vient répandre le parfum sur Jésus. Et là, les disciples sont un peu étonnés, ils disent, mais c'est un parfum de grand prix qui coûte cher. Pourquoi est-ce qu'on ne le vendrait pas, récupérer de l'argent et prendre soin des pauvres? Et là, Jésus entend leurs paroles et leur dit, bien écoutez, il faut que vous sachiez une chose, c'est que vous aurez toujours des pauvres avec vous. Vous avez remarqué, depuis que Jésus est retourné au ciel, il y a toujours les pauvres sur la terre. Il y aura toujours les pauvres avec vous. Et elles disent, mais non, on aurait pu. Jésus lui dit, mais vous ne comprenez pas. Cette femme est en train de faire peut-être même quelque chose qu'elle-même ne comprend pas. Elle est en train de m'embaumer à l'avance. Parce que quand vous viendrez un jour au tombeau, je ne serai plus là. Alléluia. Elle m'embaume, c'est pour ma sépulture, dira Jésus. Elle le fait pour ma sépulture. Il ne comprenait rien. Et là, Jésus va réunir ses 12. Il va instituer ce qu'on appelle aujourd'hui le repas du Seigneur, la Sainte Cène. Et Jésus va reprendre les images, les symboles de la Pâque juive. Lorsqu'il va rompre le pain, le partager avec ses apôtres, ses disciples, il va dire, ceci est mon corps. Pourquoi il le dit? Parce que vous vous rappelez qu'en Égypte, les Hébreux, à part le sang qu'ils ont mis sur les linteaux, ils ont fait quoi de l'agneau? Donc Jésus dit, il faut que vous compreniez, désormais, le sang de l'agneau qui a épargné le peuple hébreu, qui a sorti le peuple hébreu de l'esclavage, qui l'a libéré, il dit, ce sang-là, il faut que vous sachiez que désormais, mon sang, c'est celui qui va libérer l'humanité entière. C'est pour cette raison qu'il dit, ceci est mon corps, mangez. Et quand il arrive à la coupe, il dit, c'est mon sang, buvez. Il dit, c'est le sang de la nouvelle pour la rémission des... Alléluia, Dieu soit béni ce matin. Il dit, c'est le sang, la nouvelle alliance. Nous n'avons pas le sang de Jésus. Non, physiquement, Jésus nous dit non, il faut que vous compreniez les symboles que Dieu a utilisés dans l'ancienne alliance. Il libère ce peuple. Ce n'est pas l'agneau qu'ils ont mangé qui les a libérés. Ce n'est pas le sang, mais c'est une alliance. C'est une alliance qui est plus spirituelle que physique par les éléments qui sont mis dans le contenu. Jésus va dire, c'est le sang de la nouvelle alliance. Autrement dit, il y a eu une ancienne. Donc, il se positionne par rapport à l'ancienne alliance, par rapport au peuple d'Israël. Il y a une nouvelle alliance. Il y a cette nouvelle alliance, elle ne va pas se limiter à un seul peuple, mais elle est pour toute l'humanité. C'est pour cette raison que Jean-Baptiste, lorsqu'il va le présenter au Jourdain, il ne dira pas, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'Israël. Non ! Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas le péché d'Israël. Eh bien, comme Israël fait partie du monde, c'est que son péché en fait partie, oui ou non? Amen. Dieu soit béni ce matin. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et dans ce même chapitre 26, Jésus va annoncer sa résurrection. Waouh! Il va dire, je vais mourir, mais je vais ressusciter le troisième jour. Et vous savez ce qu'il va faire? Il est tellement confiant qu'il va ressusciter, qu'il va donner rendez-vous à ses disciples en Galilée. Alléluia. Il savait qu'il allait revenir à la vie. Il savait que la mort n'allait pas le retenir. Il savait qu'il n'allait pas rester dans le tombeau. Il va dire à ses disciples, rendez-vous en Galilée, parce que je reviendrai à la vie le troisième jour. Est-ce que Jésus a inventé ce qu'il a dit aux disciples? Non. Les disciples l'ont lu, relu, mais ils l'ont refusé. Ce que Jésus leur disait, ce n'était ni plus ni moins que dans les Écritures, dans les prophètes, dans le Pentateuque, dans les livres historiques de la Bible, dans l'Ancien Testament, grosso modo. Jésus va leur donner rendez-vous. Et regardons le jour de la résurrection. Là encore, parce que je vous aime tellement, frères et sœurs, je vous épargne de longues lectures. Je vais m'appuyer sur le texte de Luc 24. Si vous avez le temps, vous pouvez les lire chez vous. Le jour de la résurrection, là aussi dans le chapitre 23 de l'évangile de Luc, nous avons l'arrestation de Jésus. Jésus qui passe devant le tribunal de Pilate. Jésus devient une balle de ping-pong, Pilate et Hérode. Et là, Jésus va être sous la pression du peuple. Il va être crucifié. Et la Bible nous dit que il y a un homme appelé Joseph, qui était d'Arimathée. Lorsque Jésus va expirer, il va venir voir les responsables du jeu pour dire, est-ce que je peux récupérer le corps de Jésus? Et c'est ainsi que Joseph d'Arimathée va mettre le corps de Jésus dans son tombeau. Un tombeau qui n'avait jamais reçu aucun cadavre avant. Et ce Jésus-là, c'est bien évidemment, comme il l'a dit, qui va ressusciter le troisième jour. Et vous savez, au chapitre 24, tout de suite, il est question, déjà à la fin du chapitre 23 de Luc, il est question de ces femmes, un groupe de femmes, qui va suivre Joseph d'Arimathée au moment de la sépulture pour voir justement là où Jésus devait être mis en tombeau, parce qu'elles avaient l'idée de venir plus tard pour venir embaumer Jésus. Elles ne l'ont pas fait le jour même, elles n'auraient pas pu faire le lendemain parce que c'était le Shabbat. Elles sont allées donc le dimanche. Et quand elles arrivent au tombeau, la pierre est roulée, alléluia. Le tombeau est vide, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son œuvre? Le tombeau est vide. Le tombeau est vide comme il leur avait annoncé. Et là, les femmes sont paniquées. Selon les récits, on parle d'un ange, de deux anges, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a eu un ange ou plusieurs. Et là, ce groupe de femmes qui est allé au tombeau va avoir la révélation, vont avoir la révélation de l'ange qui va leur dire, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Et vous savez, ces femmes, elles vont retourner, trouver les disciples, Pierre, Jacques, les disciples, les apôtres. Ils vont leur dire, mais le Seigneur est ressuscité, il est vivant. Est-ce qu'ils ont dit amen? Non, je ne crois pas, frères et sœurs. Non, ils n'ont pas dit amen. Non. Ils n'ont pas dit amen. Nous sommes bien zélés, nous, à Angers. Super. Mais ils n'ont pas dit amen en ce moment-là. Non, ils n'ont pas dit. Vous savez comment ils ont considéré ces paroles? Oh, encore elles. Encore elles. Les femmes. Qu'est-ce que vous nous ennuyez, les femmes? Venez toutes me lapider à la fin du culte. Qui est prêt à croire ce qu'une femme va nous dire? Mais si Jésus doit ressusciter, s'il y a quelqu'un qui doit voir en premier Jésus ressuscité, c'est Pierre quand même. Ce n'est pas à Pierre que Jésus a dit, mais voici sur cette pierre je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra point contre. Mais comment une femme? Non, pas les femmes, non, pas elles. Elles ont encore inventé une histoire. C'est une histoire de femme. Non, c'est une histoire de femme. Mais il y a quand même Pierre et Jean qui vont dire, bon, ben, on va quand même y aller. Bon. Comme Pierre n'avait pas fait l'athlétisme, lui, son métier, c'était de pêcher le poisson. Pourtant, Jean aussi, c'était son métier. Mais Jean a été plus rapide que lui. Mais Jean arrive devant le tombeau et il n'ose pas rentrer. La pierre est roulée. Il n'ose pas rentrer. Pierre arrive comme une flèche directe dans le tombeau. Il regarde, le Seigneur n'est plus là. Il est perdu. Et vous savez, là encore, ils reviennent vers les leurs. Ils leur disent, ben, on a trouvé que le tombeau est vide. Et là encore, rien ne se fait. Et puis là, ils sont tellement tristes. Il y a un groupe de deux disciples qui, eux, avaient suivi Jésus, je ne sais pas pendant combien de temps exactement. On les appelle les disciples d'Emmaüs. Et puis là, découragés, ils vont prendre leur petit sac qu'ils avaient, avec lequel ils suivaient Jésus, leurs petites affaires. Et puis ils vont rentrer, ils prennent le chemin d'Emmaüs, tout triste. Et puis là, le Christ ressuscité va se révéler à ces deux hommes, sur le chemin d'Emmaüs, le jour de la résurrection, le jour de la victoire, le jour du triomphe de Dieu, le jour où toute la lumière éclaire Jérusalem, la cité de la paix, le jour où Dieu manifeste sa gloire. C'est ce jour-là que deux des disciples de Jésus vont choisir de retourner chez eux, tout abattus. Ils n'ont pas accepté le témoignage des femmes. Ils n'ont même pas cru le témoignage de Pierre et Jean qui sont venus leur dire, mais c'est vrai, le corps du Seigneur n'est plus dans le tombeau. Pour eux, dans leur tête, il y a quelqu'un qui était venu enlever le corps. C'est d'ailleurs la réflexion que les femmes ont faite au départ. Mais qui c'est qui est venu enlever le corps? Nous, on veut l'embaumer. Mais pourtant, Jésus leur avait dit, la femme à Béthanie m'a déjà embaumé. Ces deux disciples vont retourner. Et nous allons voir, frères et sœurs, qu'est-ce qui va caractériser ces disciples? Et vous savez, lorsque Jésus va se révéler à eux, il va leur dire, mais De quoi vous entretenez-vous? Oh, ça, Jésus ne l'a pas ajouté. Moi, je l'ajoute. De quoi vous entretenez-vous le jour de la résurrection pour que vous soyez aussi triste? Pour que vous soyez aussi triste. Et puis là, il y en a un qui dit, oh là 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 là, voici encore un ignorant. Il ne sait pas. Mais tu es le seul qui, ces derniers jours, ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Comment les chefs religieux ont traité notre champion. Quel champion? Jésus, un prophète qui était puissant en œuvre et en signe. Si Jésus est un prophète pour toi, il ne peut rien. Un prophète ne donne pas la vie. Vous allez voir quelles étaient, en fait, les raisons de leur tristesse, de leur découragement. Ils prennent Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui leur a dit, je vais mourir pour le salut de l'humanité, mais je vais ressusciter le troisième jour. Retrouvez-moi en Galilée. Eux, ils retournent à Emmaüs. Vous savez ce que ça veut dire, Emmaüs? Le peuple méprisé. Ils quittent la cité de la lumière, de la paix, Jérusalem, pour aller vers le peuple méprisé. Ils disent, Jésus est un prophète. Si Jésus est un prophète, il ne peut rien. Tous les prophètes sont morts, du moins de ce que nous connaissons, à part Élie qui a été enlevé. Tous les autres sont morts. On trouve leurs ossements dans le tombeau où ils ont été enterrés. Un prophète ne peut rien pour nous. À la limite, il peut nous parler de la part de Dieu, mais à part ça, il ne peut pas nous donner la vie. Si pour eux, Jésus était un simple prophète, comment voulez-vous que ces hommes aient pu même croire tout ce que Jésus leur a dit, que nous avons vu dans Matthieu 26, avant même qu'il ne soit crucifié, avant qu'il ne soit ressuscité, comment pouvaient-ils croire, vu que pour eux, Jésus était un prophète? Et la deuxième chose qu'ils vont dire, vous savez comment? Ils l'ont mis à mort, mais Jésus n'est pas un condamné à mort, frères et sœurs. Enlevons cela de notre esprit. Personne n'a tué Jésus. C'est Dieu qui a offert son Fils. Pour vous et moi, pour l'humanité. Personne ne pouvait tuer Jésus. Jésus dit, je me livre moi-même volontairement. Personne ne peut le tuer. Dieu nous a dit dans Ésaïe, qu'est-ce qu'il nous dit? Ésaïe dit, mais qui a reconnu? Qui a reconnu la main de Dieu? Qui a entendu notre prédication pour reconnaître la main de Dieu? Qui mettait le péché de l'humanité sur son propre Fils? C'est Dieu lui-même. Ce n'est ni Hérode, ce n'est ni Pilate, ni le peuple juif. C'est Dieu qui a donné son Fils pour le sacrifice, qui a sacrifié son Fils pour le péché de l'humanité. Mais pour ces hommes, Jésus était un condamné à mort. Si Jésus était un condamné à mort, il ne peut rien. Il va rester dans le tombeau. Mais nous avons vu que le tombeau est vide. Pour eux, Jésus, c'était aussi. Ils vont dire, oh, nous croyons que c'était lui qui allait nous libérer, nous délivrer du pouvoir politique des Romains. Pour eux, dans leur tête, dans leur imaginaire, le Messie qu'ils attendaient, c'est un libérateur politique. C'est un Messie politique. Quelqu'un qui allait venir à la tête de l'armée d'Israël pour faire la guerre contre tous les autres royaumes, principalement contre l'armée de César qui occupait la Palestine d'alors. Alors qu'ils lisaient Ésaïe tout le temps dans les temples, dans les synagogues. Et Isaïe dit, il s'est élevé comme une faible plante. Personne n'avait égard, car il n'avait ni éclat ni beauté. Rien, il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais pourtant, la Bible nous dit que c'est sur lui que Dieu mettait les souffrances de l'humanité. C'est sur lui que Dieu mettait les douleurs de l'humanité. C'est sur lui que Dieu a mis le péché, la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur la personne de Jésus-Christ. Alors, si Jésus est un libérateur politique, tous les libérateurs politiques, vous avez remarqué, César n'est plus non plus. Hein. Pour eux, lorsque les femmes sont venues leur dire que Jésus est vivant, il est ressuscité, ils n'ont pas cru. Parce que Jésus était définitivement mort. La preuve, c'est qu'ils retournaient désormais chez eux. S'ils avaient cru que Jésus était vivant, ils seraient restés. Ils n'ont même pas cru. Pierre et Jean qui sont revenus en disant, il n'y a personne dans le tombeau. Le tombeau est vide. Mais vous voyez la conclusion de Jésus dans ce chapitre 24, en compagnie de ses deux disciples d'Emmaüs, c'est que Jésus va leur dire, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur élan à croire la tradition. Non. À croire les Écritures. Beaucoup d'entre nous, notre faiblesse, frères et sœurs, c'est que nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu. Nous sommes attachés à ce que nous vivons plus, à ce que nous vivons, qu'à ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu ne méprise pas les situations par lesquelles nous pouvons passer. Au contraire, elle les reconnaît, mais elle se place au-dessus parce qu'elle vient de Dieu, cette parole. On peut vivre des moments douloureux, comme Noël nous a encouragés ce matin. On peut vivre des moments difficiles, mais la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une parole qui est au-dessus de tout. Je ne peux pas placer mon expérience difficile, même si elle a été difficile, cette expérience. Je ne peux pas la placer au-dessus de Dieu. Je ne peux pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a quelques semaines, j'ai perdu mon cousin qui était médecin en Afrique du Sud. Mais je ne comprends pas. Je suis allé devant Dieu. La seule chose que j'ai pu faire, c'est de pleurer. Je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi mon cousin, à 47 ans, va décéder. Pourquoi ? Mais ça arrive. Est-ce que c'est pour cela que je vais arrêter d'annoncer l'évangile et de dire, par exemple, que Dieu guérit ? Non ! Jusqu'à la fin de ma vie, je dirai que Dieu guérit. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que je peux vivre. Mon expérience n'est rien devant la parole de Dieu. Elle n'est rien. Ce n'est pas mon expérience, c'est la parole de Dieu. Il y a des membres dans ma famille que j'ai perdus. Il y a quelques années en arrière, j'en ai voulu à Dieu. En particulier, une de mes nièces. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que tu l'as permis? C'est ma nièce, j'étais attaché à elle. Elle était attachée à moi. Je l'aimais plus que mes frères et mes sœurs, je peux le dire, parce qu'il y avait un attachement, je ne sais pas. Mais elle est décédée. En 2011, j'ai dit à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ma nièce est décédée? Dieu ne m'a pas répondu. Et il ne répond jamais. Dès qu'on dit pourquoi à Dieu, il ne répond pas. Parce que la raison, c'est lui. La raison, c'est Dieu. Pendant 2 heures, j'ai tourné en rond dans mon appartement. J'étais à ça de maudire Dieu. J'ai dit, mince, heureusement que je ne suis pas marié à la femme de Job. J'étais à ça. J'étais à ça de maudire Dieu. J'ai tourné en rond pendant 2 heures. Je pleurais. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et comme si cela ne suffisait pas, mon cousin, mon ami d'enfance, on a fait les 400 coups ensemble. Il décède quelques mois plus tard. Je dis, mais c'est quoi, Seigneur? Et je ne pouvais même pas me rendre dans mon pays. J'ai demandé les pourquoi, bien évidemment. Mais il n'a pas répondu. Peut-être que vous, il vous a déjà répondu. Vous êtes ses chouchous. Moi, il ne m'a rien dit. Vous savez à quoi je suis revenu? Au bout de mes 2 heures, 3 heures de colère, je me suis posé sur mon canapé. J'ai commencé à dire, Seigneur, c'est toi le Seigneur de la vie, sans aucune conviction. C'est toi le Seigneur de la vie. Tu sais pourquoi tu permets ces choses. J'en ai voulu. Quand je me suis converti, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait en sorte que mon père décède quand j'avais 6 ans et demi? Tu vois comment mon père et moi, on était liés, comment il m'aimait, comment j'aimais mon père. Pourquoi tu as permis cela? Là encore, il ne m'a jamais répondu. Et le comble, c'est que je suis prédicateur. Et comment je fais là? Est-ce que je me dis, en fonction de toutes mes expériences, il y a maintenant des parties de la parole de Dieu que je vais mettre de côté pour dire non, ça c'est pas vrai. Moi je l'ai vécu, j'ai rien vu. Donc cette parole-là, non. Non, non. Mais je peux vous dire, oh peut-être sur le coup, quand j'ai appris les nouvelles, mais elle n'a jamais, ces nouvelles n'ont jamais entanché en quoi que ce soit la foi que j'ai dans la parole de Dieu. Et je l'annoncerai encore et encore. C'est pour cette raison que nous devons être attachés à la parole de Dieu. C'est le reproche que Jésus fait aux disciples d'Emmaüs. Il leur dit, mais les prophètes que vous lisez tout le temps, les livres de Moïse, les 5 livres, le Pentateuque, il dit, les livres historiques que vous avez tous lus, tous parlent de moi. Ce sont des types, des images, des préfigurations du Messie qui doit venir, qui doit mourir pour porter la colère, le péché de l'humanité, afin que l'humanité soit réconciliée avec Dieu. Et vous n'avez jamais compris. Vous cherchez un Messie politique. Vous cherchez un Messie à votre guise. Il dit, mais non, je suis venu dans la faiblesse de l'amour de Dieu pour accomplir la volonté de mon Père. Parce que l'amour est une faiblesse, mais en même temps une grande force. Vous savez, aimer les gens, c'est pour ça que certains ne veulent pas aimer. Parce que aimer expose. Quand on aime, on s'expose. On se fragilise. Mais en même temps, quand on aime, on grandit dans le Seigneur. On grandit. C'est la faiblesse, mais c'est la plus grande force en même temps. Si notre Jésus est un Jésus historique, il n'y a rien qui puisse faire pour nous. Si Jésus est encore dans une petite crèche, un enfant, il ne pourra rien faire pour vous non plus. Si Jésus est un sage, comme avait répondu, comme certains disent aujourd'hui dans ce monde, un sage ne pourra rien pour vous. Il pourra vous prodiguer quelques conseils, mais il ne vous donnera jamais la vie. Et certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller regarder ce film qui est sorti récemment, ou du moins qui a été diffusé récemment en France, Jésus l'enquête. Vous l'avez regardé? Et bien évidemment que tout le christianisme se fonde sur quoi? Ben sur la résurrection du Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui doute de l'existence de Jésus. Les gens sont à peu près d'accord pour dire que Jésus a véritablement existé. Mais là où il y a des doutes, les gens se disent, mais est-ce qu'il est véritablement ressuscité? Mais la Bible nous dit que le tombeau est vide. Le tombeau est vide, Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est dans la gloire. Et parce qu'il est dans la gloire, nous pouvons le louer, l'adorer, le célébrer. Il n'est plus un petit enfant. Il n'est plus sur la croix. C'est pour cette raison. La croix, c'est la mort. C'est une étape. La croix, c'est la mort. Jésus n'est plus sur la croix. S'il est vivant, c'est qu'il n'est plus sur. Alors, tu peux jeter ton crucifix. Il n'y est plus. Il est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Regardons maintenant ce que nous apporte la résurrection, la puissance de la résurrection. On va lire un texte déjà pour comprendre ce qu'est devenu ce Christ ressuscité. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est un passage où l'apôtre Pierre est en train, bien évidemment, de donner sa prédication, la première prédication après l'effusion du Saint-Esprit. Il va s'adresser au peuple qui est étonné de voir des hommes et des femmes qui sont en train de leur parler, en train de parler des merveilles de Dieu dans des langues, dans leur langue maternelle. Ils sont étonnés, ils disent, bon, s'ils sont en train de parler dans ma langue, c'est qu'ils ont bu du vin doux. C'est pas mal déjà le vin doux. Hein? On est quand même dans la région de quelques vins doux. Hein? Voilà, on a le bonzo, hein, on a, oh, ils vont me dire, mais lui c'est un ivrogne. On a le coteau du Léon. On n'en a pas, on en a quelques-uns comme ça, je vais m'arrêter là. Parce que je crois qu'au bout de la troisième, vous allez me dire, mais lui, comment il les connaît? Oh, j'en bois de temps en temps, ça m'arrive. Et là, Pierre arrive devant ces gens. Voici ce qu'il va leur dire, entre autres, dans sa prédication, ou du moins ce qu'on appelait même le plaidoyer. Il va leur dire, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, c'est homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon quoi? Selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu a fait quoi? Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié et qui désormais est ressuscité. Parce que ces paroles de Pierre interviennent ni plus ni moins que le jour de la Pentecôte. Donc Jésus est ressuscité, il est déjà remonté au ciel. Il dit, il faut que vous sachiez une chose, cet homme, c'est pour ça que je vous ai dit, la vie de Jésus est une vie de mystère. La Bible nous dit que Jésus était pleinement Dieu, pleinement homme, et qu'il a agi sur la terre comme étant un homme rempli du Saint-Esprit. Et là, aller dans n'importe quelle école de logique, vous ne pouvez pas trouver, vous ne pouvez pas rationaliser cela. C'est pour cette raison que les choses de Dieu, elles s'acquièrent par la foi. C'est la foi. Ce n'est pas par le raisonnement. Non, peu importe, même le plus grand prix Nobel sur cette terre, il ne pourra pas vous expliquer comment Jésus était pleinement Dieu, il était pleinement homme. Parce qu'il va vouloir trouver quelle était la partie de Jésus qui était Dieu, quelle était la partie de Jésus. Bon, le bras gauche, c'était Dieu. Le droit, c'était homme. Non. C'est un mystère. Mais l'apôtre Pierre nous dit, cet homme, Jésus, il parle bien, il dit cet homme. Il dit, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ après sa résurrection. Il est Seigneur et Christ. C'est pour cette raison maintenant, lorsque Jésus va être sur cette montagne avec les 11 disciples pour leur donner des dernières instructions dans Matthieu 28. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, tout pouvoir m'a été dans le ciel et sur. Maintenant que je suis, il dit tout pouvoir, parce que j'ai accompli pleinement la volonté de Dieu. J'ai accompli la justice de Dieu. Maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Et parce qu'il a tout pouvoir, et en ce moment-là, il dit, maintenant, pour vous retourner vers les autres, allez leur annoncer la même chose. Faites dans les nations, faites des disciples dans toutes les... Il est Seigneur et Christ. Et l'apôtre Paul le dira plus tard. Il dira, mais ce Jésus-là qui a souffert la mort de la croix, il dit, Dieu là aussi souverainement, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, parce que Jésus a accompli, c'est fini. C'est lui qui est Dieu désormais. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, pour faire comprendre cela, entre autres aux chrétiens de Rome, il va leur écrire ceci. Il va leur dire, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est pour cette raison, quand il parle de plante, c'est une image puissante. C'est une image puissante. Il est en train de parler du corps de Christ ici. Il dit Christ, lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il a été mis dans le tombeau, qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? C'est l'image de la semence. Tu es d'accord, Luc? Que quand tu en semences, tu mets sous terre? C'est la mort. Quand la semence va sous terre, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais quand elle pousse, il y a une telle puissance qu'elle ne revient jamais seule. Jamais. Jamais. Vous mettez une semence de blé, elle ne reviendra pas une seule semence de blé. Elle revient avec plusieurs autres semences. Alléluia! Christ est descendu dans le tombeau. La Bible nous dit que nous avons fait les 72 heures de Jérusalem avec lui. Nous avons été avec Christ. Nous avons été avec lui dans le tombeau. C'est pour ça que la Bible nous dit que le baptême, c'est le symbole de quoi? Mais vraiment de notre mort que nous avons eue en Christ. Avec Christ, nous sommes allés avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes positionnés comment? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est la position que nous avons. Frères, dominons, régnons. La résurrection nous a donné une position que nous ne pouvions pas avoir par nous-mêmes. C'est une position que Dieu nous donne en son Fils Christ. Et c'est ce qu'il exprime encore clairement dans Jean 15 lorsqu'il parle du cep et des sarments. C'est cette plante qui a poussé. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Il nous a arrachés de l'arbre des ténèbres pour nous greffer sur l'arbre de son Fils. Désormais, le sang qui coule en nous, c'est le sang de Christ. Est-ce que sur une même plante, il peut y avoir une sève qui coule dans une branche et une autre qui coule dans une autre branche? Alors, si nous sommes tous de Christ, nous formons le même corps. Restons dans l'unité du corps. L'unité du corps, c'est ce qu'il dit. Si nous sommes morts avec Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Restons dans l'unité du corps, frères et sœurs. C'est le corps. Je vais conclure. L'apôtre Paul va l'exprimer d'une autre manière pour parler de la résurrection de Christ. Dans l'épître aux Philippiens. C'est un clin d'œil pour... Ça fait un moment qu'il est dessus, non. Voici ce que l'apôtre Paul va dire. Il va dire, et même je regarde toutes ces choses. Quelles choses? En fait, sa religion. Il dira que dans sa religion, il était champion. Il était parmi les meilleurs des pharisiens. Il dit, il était même tellement zélé qu'il a commencé à persécuter ceux qui ne voyaient pas les choses comme lui. Entre autres, ceux qu'il a rejoints plus tard. Il dit, j'étais doué dans ça. Il dit, mais je regarde toutes ces choses comme une perte. Pourquoi il les regarde comme une perte? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Dans quel but? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voici ce que Paul dit. Il dit, maintenant, nous avons lu un texte, marcher en nouveauté de vie. Ça dit que Christ nous a donné la vie. Si nous étions restés avec Christ sur la croix, nous serions morts. Nos péchés seraient pardonnés. Mais comme il est ressorti du tombeau, c'est la vie. Une semence que vous mettez sous terre, si elle ne pousse pas, elle va mourir, oui ou non. Mais quand elle revient à la vie, elle finit toujours par porter du fruit. Et Paul dit, moi je renonce à tout ce que j'étais par ma religion. Peut-être quelqu'un va se dire, oh, faut pas toucher à ma religion ce matin. Non, il n'y a rien contre. C'est pour cette raison que les êtres humains ont fait du christianisme une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Directe entre un homme, une femme sur cette terre et le Dieu vivant et vrai. C'est une relation. C'est une intimité. Et Paul dit, je quitte tout ce qui a été jusqu'alors. Un poids dans ma vie, la religion, la tradition, toutes ces choses que je répétais jour après jour. Où on me demandait d'attendre un Messie, mais qui au fond était déjà venu, mais j'étais tellement aveuglé par ma tradition, par ma religion, que je ne voyais rien. Il dit, j'abandonne toutes ces choses parce que je m'élance maintenant à la découverte de Christ. Je veux le connaître tel qu'il est, découvrir la puissance de sa résurrection. Parce que c'est dans la puissance de sa résurrection que nous avons la vie. C'est dans la puissance de sa résurrection que nous avons l'éternité. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Et je veux vous lire deux textes maintenant pour vous les laisser sur le cœur, pour voir ce que la puissance de la résurrection accomplit. Car vous êtes tous fils de Dieu, fils et filles, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voici ce que la résurrection nous apporte, la puissance. Ça dit que maintenant que Christ est revenu d'entre les morts, il est glorifié. Il est assis sur son trône. Voici ce que la Bible nous dit, c'est qu'en lui désormais, il n'y a plus ni juif ni grec. Ce n'est pas juste une question, je ne sais pas, de nationalité, non. Il est question de ce qui sépare, de ce qui faisait que les êtres humains ne pouvaient pas se mélanger. C'est ça en fait. Les Juifs et les Grecs ne pouvaient pas se mélanger. Mais il dit désormais en Christ, quelle que soit votre provenance, vous êtes ensemble. Parce que vous formez un seul corps. Moi je suis en train de vous parler ce matin, mais je ne suis pas français. Je viens d'un pays dont peu d'entre vous connaissent où il se trouve. Mais pourtant je suis là devant vous ce matin. Il y a plusieurs nationalités au milieu de nous ce matin. Mais comment cela est-il possible? Cela est possible parce que Christ a accompli pleinement la justice de Dieu et que dans sa résurrection, il nous a donné la vie. Dans sa mort, nous sommes morts au péché. Dans sa résurrection, nous avons la vie. Il n'y a plus ni juifs, les choses qui nous divisent, ni esclaves, ni libres. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Gabonais? Si! Mais en Christ, ça dit que nous sommes tous devenus un. Nous sommes devenus un. Est-ce que l'apôtre Paul est ici en train de nous annoncer la théorie des genres en disant il n'y a plus ni homme ni femme? Non! Il est en train de dire que pendant longtemps, vos religions ont fait en sorte que la femme soit dominée. Vos traditions ont fait en sorte que la femme soit maltraitée. Je vous dis, je réfléchissais en préparant ce message, je me suis dit, mais Seigneur, ce n'est pas une question de France, c'est mondial, c'est universel. Dans toutes les traditions du monde, les femmes sont maltraitées. Toutes, à des degrés divers. Si quelqu'un veut, quelqu'un peut dire, à des degrés divers, les femmes sont maltraitées. S'il y a certains d'entre vous qui étaient là mardi, ils ont entendu ce que le pasteur Daniel a dit. Dieu ne nous a pas dit de dominer sur les êtres humains. Il nous a dit de dominer sur la création, les plantes, les animaux, toutes ces choses. Mais la domination de l'homme sur la femme est intervenue à cause du péché. C'est pour cette raison, comprenez maintenant la révélation. C'est qu'en Christ, vu que nous sommes pardonnés de tous nos, donc il n'y a plus ni homme, nous sommes tous un en, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié.